Bien, alors, Parshat Korach. Donc, on va traiter un problème de l'autorité. La question dans l'autorité, c'est toujours d'où provient l'autorité? D'où vient cette autorité que quelqu'un dit avoir? Cher Rabbeinu a une autorité et ça va être contesté, on va lui demander, mais d'où vient cette autorité que tu dis avoir? Alors, comme vous savez, Korach va développer une théorie, on a déjà parlé souvent, comme quoi on est tous égaux, super égalité. Et à ce titre-là, puisqu'on est tous égaux, alors Korach va dire à mon cher Rabbeinu, il va lui dire, Rav Lachem, c'en est trop, en fait. Kulam Kudoshim, Kolaïda Kulam Kudoshim, toute l'assemblée témoignante, toute l'assemblée à le même degré de Gdusha, la Gdusha, nous l'avons parce que nous avons vécu le Sinaï. Et au Sinaï, d'une certaine manière, on a vécu la même chose que ce que Moshe Rabbeinu vit. C'est d'ailleurs pour ça que Hachem a parlé au Klal Israël, de telle sorte qu'il puisse accepter, quand Moshe dit que c'est Hachem qui lui parle, il puisse accepter qu'effectivement, Hachem lui parle vraiment, alors ils ont fait l'expérience qu'Hachem leur a parlé. Alors Korach dit, c'en est trop. Madua titnasu al ka'al Hachem. Pourquoi est-ce que vous vous placez au-dessus de l'assemblée d'Hachem? Donc ça, c'est la question, interpellation de Korach contre Moshe Rabbeinu. Si on regarde la réponse de Moshe Rabbeinu, Vaishma Moshe, Vaipol Alpanav, donc Moshe Rabbeinu a été consterné, il s'est prosterné à terre, bon, on verra après, on reviendra là-dessus, Vaidaber El Korach. Et Moshe Rabbeinu parle, a priori c'est la réponse de Moshe Rabbeinu, à Korach et à toute sa compagnie, là, tous ceux qui sont avec lui. Et il leur dit...
Sur mon lit.
Il leur dit donc, Boker, au matin donc, Ve Yoda Hashem et Asherlo, et Akadosh, et Krivelav. Ils leur disent, ils disent aux gens de Korach, voilà ce qu'il faut faire, etc. Mais maintenant, la réponse que Moshe Rabbeinu donne réellement à Korach, c'est au Pasuk Chet. Moshe Rabbeinu lui dit, Shimuna Abne Levi. Il s'adresse à Korach, mais à tous les Bnei Lévi qui sont avec Korach. Et il lui dit, Ameat Mikem, qui dit l'éloqué Israël et Trem, Meadat Israël, la Krib et Trem et Lav, la Vod et Avodat Mishkan Hashem, la Mod Lifne Aïda, le Shortam. Voyakre votre et Kolachecha, Bnei Lévi Itach, ou Bikashtem Gam Keuna. Ok, Korach lui demande, il lui dit, pourquoi tu es au-dessus de nous? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu lui demande? Il répond, il lui répond pas du tout pour, en lui disant pourquoi il se mettrait au-dessus de lui. Qu'est-ce qui se passe? Pardon? Il n'entend pas.
Madame Asseline. Depuis sa maison.
Ok. Alors, Moshe Rabbeinu ne lui répond pas à sa question. Moshe Rabbeinu lui dit, mais de quoi tu te plains? Tu as été choisi par Hachem. Qu'est-ce qui se passe?
Je vais voir ce qu'il est là.
Rien. Et oui, elle t'a appelé comme tout le monde. Je peux regarder. Un instant, je vais regarder si tout le monde a été appelé. Est-ce qu'il y a celle? Voilà, je l'appelle une fois. Il y a des gens qui sont... Tout le monde est plus ou moins appelé. Et... Cette histoire, il y a tellement de monde qui viennent sur cette liste, mais personne, il n'y a qu'une minorité. Ces gens ont tous demandé à être sur la deuxième liste, et ensuite, ils viennent, elles ne viennent pas. Ils n'écoutent pas, donc on ne voit pas très bien pourquoi elles sont sur cette liste.
Pardon. Elle est là.
Qui?
Elle est là, quoi.
Oui, normalement,
bonsoir.
Vous avez appelé déjà.
Ok. Donc la question est, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu répond à Korach? Korach lui dit, vous en avez trop pris, et il répond, de quoi tu te plains? Toi, tu as été choisi par Hachem. Donc Hachem, Moshe Rabbeinu ne répond pas du tout à sa question qui était, on est tous égaux, comment ça se fait que tu prends une position particulière? En fait, ce qu'il faut comprendre dans la réponse de Moshe Rabbeinu, c'est qu'en réalité, il y a quelque chose qui n'est pas dit. Il y a quelque chose qui n'est pas dit explicitement dans le texte. Parce qu'en réalité, Moshe Rabbeinu a bien compris que le problème de Korach, c'est pas l'égalité. Le problème de Korach, c'est un problème de jalousie, c'est un problème de... Il veut le pouvoir. Il veut le pouvoir, vraiment. Seulement, il ne le dit pas, bien entendu. Certains expliquent, on en a déjà parlé d'autres années, que Korach, il dit, on est tous égaux. Mais Korach sait très bien qu'il est beaucoup plus riche que tout le monde. Et un jour ou l'autre, le clan d'Israël aura besoin d'argent. Et Korach dit, mais moi, c'est moi qui ai amené l'argent. Et donc, du coup, c'est moi qui aurai le pouvoir. C'est une machloquette. Korach s'engage dans une machloquette, mais dont le fond du problème, c'est vraiment la jalousie et le pouvoir. Dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, on parle justement de cette notion de machloket. Et on dit qu'il y a une machloket, un type de machloket qui est ce qu'on appelle le Shem Shamayim, et un autre type qui est chez l'eau, le Shem Shamayim. Et on dit dans Pirkei Avot que la machloket qui est le Shem Shamayim, sofa l'itkayem, c'est une machloket qui va durer au sens. Ça veut dire, en quoi est-ce qu'elle va durer? C'est une machloket sur laquelle on va continuer de discuter. Et on va, le grand exemple, c'est Bet Shammai Bet Hillel. C'est une machloquette Bet Shammai Bet Hillel. Mais dans la Gemara, on discute aussi bien la position de Beth Hillel que la position de Beth Shammai, même si halakhiquement après, la halakha est comme Hillel, comme Beth Hillel, mais on discute, donc ça devient un sujet de discussion. Et curieusement, l'exemple de la machloket qui est chez Lo Lechem Shammai, Hazal disent, c'est Korach va'adato. Et Korach va'adato, c'est un seul côté. Alors, on n'a pas voulu dire que c'est Korach contre Moshe, parce que ça aurait fait comme si Moshe était dans la machloket aussi chez Lo Lechem Shammai. Alors, on n'a pas dit, c'est Korach va'adato. Il y a un vort du Khatam Sofer qui dit la chose suivante. Il dit, quand la machloket est chez Lo Lechem Shammai, même les gens qui sont du même côté, ils sont en vérité en machloket. C'est-à-dire, dans les gens qui étaient avec Korach, il y avait plein de gens qui avaient des ta'anot, des arguments, qui avaient des envies, des désirs, etc., différents. Ils n'étaient pas tous sur la même longueur d'onde.
Pas près moi-même.
Et la grande héroïne, en fait, de cette histoire-là,
quoi ?
C'est... Est-ce que c'est possible de fermer les micros ? La grande héroïne de cette histoire, c'est Madame On Ben Pellet. On Ben Pellet, c'est un bonhomme qu'on ne connaît quasiment pas, mais qui devait être suffisamment important pour qu'il soit mentionné dans les conspirateurs. Mais curieusement, tous les gens qui sont mentionnés comme conspirateurs, à la fin, quand les problèmes se règlent, ils sont mentionnés et on dit qu'ils ont disparu. Mais on ne parle pas du tout de Ron Ben Pellet. Et le Chachamim, la Gemara dans Sanhedrin, elle dit que la femme, Ron Ben Pellet, quand il est revenu des assemblées, Korach, c'était un super orateur, etc. Il est revenu enthousiaste. Voilà, on va tous être égaux, etc. Et sa femme, elle lui a dit, en gros, bon, t'es un idiot. Si c'est Moshe qui gagne, ben, tu vas avoir des problèmes, parce que t'es relevé. Et si c'est Korach qui gagne, qu'est-ce que tu vas gagner? Tu crois que Korach, il va te donner du pouvoir? Korach, il fait les choses pour lui-même, il fait pas les choses pour toi. Alors, il a eu au moins l'intelligence de changer la vie de son épouse. Mais en fait, comme vous savez, il a dit, mais je me suis engagé à aller avec eux. Alors, elle lui dit, mais moi, je vais régler le problème. Et comme vous savez, quand ils sont venus chercher, quand Korach et Adato sont venus chercher On Ben Pellet, elle s'est débrouillée pour être elle était dans sa maison. Elle a découvert ses cheveux. Quand ils ont ouvert la porte, ils ont vu une femme découverte. Les gens de Korach, c'est pas des gens qui allaient discuter avec une femme dont la tête n'était pas couverte. Donc, ils sont partis et On Pellet a été sauvé. Il a été sauvé par sa femme. Donc, c'est cette idée-là, effectivement, que quand on voit les gens qui veulent la machloket, on peut regarder ici aujourd'hui en politique, que ce soit la politique française, la politique israélienne, etc. Les gens sont... Ils sont vraiment en machloket avec eux-mêmes. Parce que dans un côté, ils ne sont pas d'accord les uns avec les autres non plus. Alors, avant d'avancer là-dedans, je voudrais rapporter un enseignement du Shem Ishmoel. Le Shem Ishmoel les ramène, lui, un enseignement du Harizal. Donc le Harizal, comme vous savez, c'est le grand kabbaliste. C'est une nouvelle sorte de Kabbalah qui a commencé à Tzfat, enfin autour de Tzfat, avec les gens qu'on connaît, Moshe Cordovero ou Alcabetz ou choses comme Shlomo Alcabetz, etc. Après Vital, le Arizal il dit quelque chose mais il l'explique pas et le Shem Ishmael va l'expliquer. Le Arizal, ce qu'il dit, c'est une gématria. Il dit la valeur numérique de Moshe c'est 345. Même Shinhei. La valeur numérique de Korach, c'est 308. La différence, c'est 37. Et 37, c'est la gématria de Hevel. Hevel, c'est le fils de Adam et Chava. Celui qui a été tué par Caïn. En vérité, bon, ça c'est ce que dit le Arizal, il ne dit pas plus. Mais ça veut dire que la différence entre Moshe et Korach, la différence c'est Hevel. Ça veut dire Moshe moins Hevel, c'est Korach, ou si vous préférez, Korach, s'il avait pu ajouter Hevel, il aurait été comme Moshe. Pardon? Oui, ça veut dire qu'il était moins l'amida de Hevel qui lui manquait. Sinon, il était à la hauteur de Moshe. Les deux enfants de Chava et de Adam et Chava, Caïn et Hevel, Caïn, quand Chava a eu Caïn, elle a dit Kaniti Ish et Hashem. Le mot Kaniti, d'ordinaire, donc, nous comprenons qu'aniti, j'ai acquis. Mais ça, c'est vrai dans l'hébreu de la Mishnah. Dans l'hébreu biblique, qu'aniti, ça veut dire j'ai créé. Par exemple, quand Avraham Avinu parle d'Akadosh Baruch Hu et qui dit qu'il est koné Shamaim Vaharetz, ça ne veut pas dire qu'il a acquis Shamaim Vaharetz, c'est qu'il a créé le ciel et la terre. Alors, elle pense, j'ai créé avec Hachem, quelque part. Donc, c'est le côté vraiment matériel, etc. En fait, Caïn et Hevel, si on les prend ensemble, ce sont deux aspects de l'être humain. Caïn, c'est un aspect créatif, dominateur, qui est du côté de ce qu'on appelle la gadlout, la grandeur. Et Hevel, c'est l'humilité, une forme de soumission. C'est la chifloute, c'est le côté d'une grande humilité, peut-être le côté bas. Ce que dit le Shem Ishmael dans son explication de ce que dit la Arizal, c'est le gematria du Arizal, c'est que d'une certaine manière, mon cher Rabbeinu et Korach, c'est la même chose. Mais et cette machloquette qu'il y a entre Moshe et Korach, c'est une machloquette qui répète la machloquette entre Caïn et Hevel. Seulement, entre Caïn et Hevel, c'est Caïn qui a tué Hevel. Entre Moshe et Korach, c'est Moshe qui tue Korach. Tous les deux sont très, très, très grands. Mais la différence, c'est Hevel. C'est-à-dire ce qui manque à Korach. Korach, c'est un bonhomme créatif, un constructeur, un bonhomme qui en veut, qui va aller, il veut faire les choses. Seulement, il lui manque l'humilité. Et c'est pour ça que ça ne va pas marcher. S'il avait eu l'humilité, alors il serait vraiment l'alter ego de Moshe Rabbeinu. Souvent, on a l'impression, quand on lit le texte de façon archi-classique, on a l'impression que Korach et Adato, etc., ce sont des gens pas très fréquentables. Il y a le problème de la jalousie, du pouvoir. On peut le lire de cette manière-là. Et c'est certainement une manière tout à fait correcte de lire. On peut lire un peu différemment aussi. La première chose, c'est que dans cette fameuse réponse dont on a parlé de Moshe à Korach, Moshe Rabbeinu, contrairement à son habitude, l'habitude de Moshe, c'est que chaque fois qu'il y a une accusation contre le clan Israël, Moshe Rabbeinu s'investit pour sauver le clan Israël. Et ici, contrairement à son habitude, Moshe Rabbeinu demande une sanction absolument terrible contre eux. Il demande une mita meshuna, pas simplement qu'ils meurent, mais qu'ils meurent d'une façon complètement extraordinaire. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu nous demande une chose pareille? C'est que cette contestation de Korach, de l'autorité de Moshe Rabbeinu, n'est-ce pas? Korach dit rien moins que à Moshe, c'est toi qui as inventé les choses. C'est pas Hachem qui t'a donné ces lois-là. C'est pas Hachem qui t'a dit de nommer Aaron, ton frère, comme Kohen Gadol, de Elitsafan comme chef, etc. Non, c'est toi-même, de ta propre initiative. Le problème, c'est que si on dit une chose pareille, alors les mitzvot, elles ne tiennent sur plus rien du tout. Les mitzvot, c'est Moshe qui les a inventées, donc il y a absolument, il n'y a aucune raison de pratiquer les mitzvot. Moshe Rabbeinu nous demande ici une sorte de nouvelle Kabbalat HaTorah quasiment. Une redémonstration, comme au Sinaï, que Moshe Rabbeinu n'est que le transmetteur. Alors, ce qui est d'abord très très frappant, c'est que Moshe Rabbeinu va obtenir tout ça, mais cette démonstration, la terre qui s'ouvre, elle n'entraîne aucun changement chez les Bnei Israël. C'est énorme. Ça ne les fait pas bouger du tout. Immédiatement après, ils se révoltent contre Moshe et Aaron. Ils ont presque tué Moshe et Aaron. Il a fallu qu'Hachem envoie une magéfa pour les sauver, 14 700 morts, pour sauver Moshe et Aaron. Et même après la magéfa, même après tout ça, alors Hachem, pour apaiser, semble-t-il, les gens autour de Korach, Pour les apaiser, il leur propose l'opération des bâtons. Bâtons, les bâtons qui vont fleurir, etc. Mais en quoi ce petit nest du bâton qui va fleurir est-il plus efficace que la terre qui s'ouvre, le feu, la magéfa? Et tout ça, ça se passe un an après, ou juste un an après, le Sinaï. Et quand vous lisez le texte, vous voyez que pratiquement tout le monde suit Korach et pas Moshe Rabbeinu. Hazal eux-mêmes se demandent, disent Korach chez Pikeach, Aya, Mara, le Shtutze. Qu'est-ce que Korach, qui était quelqu'un de super intelligent, comment il a pu imaginer que son histoire allait marcher? Alors, je vais présenter une explication un peu différente de celle qu'on donne d'ordinaire. Comme on a vu, d'après le Harizal et l'explication de Shem et Shmuel, on voit bien que les choses ne sont pas du tout telles qu'on les a comprises. Bon, Korach, c'est un super grand bonhomme qui a un énorme défaut, c'est qu'il lui manque l'humilité. Mais à Evel Prin, il est à la même hauteur que Moshe Rabbeinu. Bon, c'est ce que le Harizal a dit. La gematria de Moshe, celle de Korach, elle ne diffère que de la gematria de Hevel. Et ceux qui pensent, et les Mekoubalim comme le Harizal, etc., ils pensent qu'il existe une théorie des Gilgoulim, eux, ils vont lire que Moshe Rabbeinu est le Gilgoul de Hevel et que Korach est le Gilgoul de Caïn. Donc, ce que je vous ai dit, que, en fait, cette marloquette, elle fait revivre la marloquette Caïn et Hevel, et qui finit dans l'autre sens, cette fois-ci c'est Moshe qui tue Korach, enfin qui fait tuer Korach, donc c'est Evel qui gagne contre Caïn, alors que dans la marloquette Caïn et Evel, c'est le contraire. La vérité, c'est que même dans cette fameuse marloquette entre Caïn et Evel, il y a des chazals qui disent, il y a un peu de tout, mais il y a des chazals qui disent qu'en réalité, dans la lutte physique entre Caïn et Evel, c'est Evel qui avait le dessus. Seulement Caïn l'a supplié de l'épargner. Evel a été d'accord. Donc, il a relâché son étreinte et quand il s'est relevé, il l'a tué. Donc, quelque part, c'est l'humilité trop grande de Evel qui a permis à Caïn de gagner. Alors, cette humilité, maintenant, elle se retrouve chez Moshe Rabbeinu. Alors, Moshe Rabbeinu, il est le plus humble de tous sur Terre. Et ça, c'est la qualité fondamentale qui va lui permettre d'être ce qu'il est. Si on revient sur cette question de l'autorité dont on a parlé au début, si, regardez objectivement. On avait une situation avec les prorotes qui était une situation dont je pense qu'on peut dire que c'était une très très bonne situation. Pourquoi? Parce que des prorotes, il y en a dans toutes les familles, dans toutes les tribus. Donc, si ce n'est pas cette génération, c'est la génération d'après. Si ce n'est pas moi, c'est mon cousin, c'est, etc. C'est-à-dire que le service d'Hachem, la voda dans le Mishkan, cette avoda, si elle se faisait par les prorotes, quelque part, toutes les familles étaient parties prenantes à cette avoda. Mais les prorotes se sont disqualifiés à l'époque du Vaudor et ils ont été remplacés par la tribu de Lévi. Lévi, Cohen. Mais du coup, il se passe une nouvelle chose, c'est que n'auront le droit de travailler au Beth Amikdash, enfin d'abord au Mishkan, puis ensuite, que les Kohanim. Que les Kohanim. Et on ne s'occupe pas de savoir si le Kohen, il a des bonnes midotes ou des mauvaises midotes. Parce qu'il est né d'un papa qui s'appelait Kohen, il est Kohen et il est kasher pour la Avoda. Il peut se disqualifier, mais en gros, il est kasher. Alors qu'il peut y avoir dans le clan d'Israël des gens qui sont beaucoup plus grands que lui, qui sont beaucoup plus proches d'Hachem dans leur avoda personnel que lui, que ce Kohen. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose de difficilement acceptable du point de vue rationnel, en tout cas, dans cette désignation des Kohanim, quels qu'ils soient, quel que soit leur niveau spirituel, etc. Nous, on préférerait évidemment que ça ne passe pas par l'héritage, mais par le mérite, en fait. Il y a plusieurs ktarim, comme on dit. Il y a trois couronnes. Il y a la couronne royale. Alors la couronne royale, elle appartient. En vérité, qu'est-ce qui se passe là, Annie, votre caméra, elle saute là. Alors, il y a la couronne royale qui appartient à la tribu de Yehuda. Ensuite, il y a la couronne de la Torah qui appartient à tout le monde. N'importe qui le désire peut venir et prendre la couronne de la Torah, c'est-à-dire étudier la Torah, et se développer dans la Torah, et grandir, et devenir une superstar dans la Torah. Korach ve'adato pensait que la Kehuna, normalement, elle devrait être du même ordre. La Kehuna, ça devrait être possible à tout le monde. Tu veux servir Hachem? Ok, on va te faire passer un examen pour savoir si tu en es capable. Et bon, et si on te juge capable, eh bien, tu l'auras. Tu pourras le faire. Du coup, pour eux, ça devait être ouvert à tout le monde et à toutes les tribus. Oui? Il faut parler plus fort. Vous enlevez votre masque, je ne sais pas parler plus fort. Non, non, il y avait aussi. On va voir. Enfin, on va regarder. Il y avait aussi une partie de des gens de la tribu de Reuven. Mais finalement, il y avait Adato, mais d'après ce qu'on voit, quand le peuple va lapider complètement, il va tuer, enfin essayer de tuer Moshe et tout, c'est pas seulement les quelques Levim qui pouvaient faire le coup de poing contre le reste du peuple, tout le monde était du côté de Korach, visiblement. Eux, ils ont pensé, Korach a pensé, ça ne peut pas venir, cette injustice-là, elle ne peut pas venir d'Hachem. C'est obligatoirement Moshe qui a dû inventer ça. dans les relations interhumaines, il y a deux types de personnes qui ont une relation un peu spéciale. Vous avez d'un côté, vous avez un Eved, un esclave. L'esclave, il a avec son maître une relation particulière. Et une femme avec son mari, elle a elle aussi une relation particulière. Tous les deux, juridiquement, ont le même, ils ont une relation semblable, c'est-à-dire Mashekana Eved Kanarabo et Mashekana Taisha Kanabala. C'est-à-dire, le Eved, quand il achète quelque chose, s'il achète, comme lui, il n'existe pas, c'est immédiatement son maître qui a acquis la chose. Et quand une femme achète, alors c'est son mari aussi qui acquiert. Seulement, il y a une différence radicale entre les deux. C'est que le Eved, on dit « ein lo yad », c'est-à-dire juridiquement, il n'existe pas du tout. Ça veut dire qu'il ne peut pas acheter quoi que ce soit. Donc la femme, par contre, « yesh la yad ». La femme, elle peut acheter, ce qu'elle a acheté est acheté. Après, il y a comme des accords entre le mari et la femme, toutes sortes de choses, ça appartient à son mari. Mais la femme, elle peut prendre l'initiative quand elle veut, sans en demander, sans avoir besoin de passer par son mari. Elle peut acheter comme elle veut, c'est ce qu'elle a acheté est acheté, ce qu'elle a vendu est vendu. Visiblement, le Chazal ont compris que le but n'est pas que le lien entre une femme et son mari soit un lien de shoot-a-foot, un lien d'association. Chazal utilise l'expression que dans un couple, chacun est plaque goufa. Il est la moitié du corps. La moitié. Il y a une entité qui s'appelle Zou, qui s'appelle la paire, qui s'appelle le couple, et chacun est la moitié de ce couple. D'où cet halakha de... Alors, ce qu'on voulait, c'est qu'ils deviennent un. Comme c'était Zahar ou Nekeba, que Adam a été créé comme ça, on veut que le couple, en fait, redevienne cette unité-là. Chacun est une moitié de la chose. C'est pas que deux associés où chacun est pour soi, mais ils ont mis des choses en commun. Et donc, si la femme prend une initiative, eh bien, ce qu'elle a décidé de vendre ou d'acheter, c'est fait, c'est vendu ou c'est acheté. Il est dit dans le texte plusieurs fois, on dit de Moshe Rabbeinu qu'il est Eved Hashem. Par rapport à Hashem, dans le couple Moshe et Hashem, Moshe est Eved. Il appartient complètement à Hashem. Donc c'est comme si Moshe Rabbeinu, de ce point de vue-là, n'avait pas de Yad. Il n'existe pas juridiquement si on le compare à Eved. Donc, il n'y a aucune initiative possible de Moshe Rabbeinu. Alors, c'est pas tout à fait vrai, puisque comme vous connaissez, Moshe Rabbeinu s'est quand même permis de briser les tables. Il a ajouté un jour un Kabbalat Torah. Donc, il a pris certaines initiatives et après coup, Hachem a dit c'était bien. Il y a un Chazal qui dit que Korach et Vadato, ils ont dit de Moshe Rabbeinu qu'il était Chashoud Be'eshetish. C'est-à-dire, Il voulait dire par là, il y a plusieurs explications, mais il voulait dire par là que mon cher Rabbeinu, par rapport à Hachem, il n'est pas dans un rapport de Eved, mais dans un rapport de Isha. C'est-à-dire, tu peux prendre des initiatives. Ça veut dire que Hachem te permet de prendre des initiatives. Tu n'as pas... Nous, on dit qu'il ne prend aucune initiative parce qu'il est Eved Hachem. Mais Korach Vadato disent pas du tout. C'est ça que ça veut dire quand ils disent... Il le soupçonne d'être chétiche. Pas qu'il a un rapport avec une femme, mais que d'être une femme mariée. Il est comme une femme mariée par rapport à Hachem. De même que la femme, elle a la possibilité de prendre une initiative. Korach et Adato disent, ben, Moshe Rabbeinu, lui aussi, il peut prendre des initiatives. Donc, quand tu as pris l'initiative, voilà, tu as pris l'initiative et voilà, Hachem t'a laissé faire, mais finalement, c'est toi qui as décidé. Mon cher Rabbeinu, à cette accusation-là, il répond, eux autres, t'es doux avec ça, on va faire quelque chose et vous allez savoir que je n'ai rien inventé par moi-même, que c'est toujours Hachem qui m'a ordonné les choses. Et donc là, le texte, il est un peu redondant et on comprend pas très bien si Hachem, s'il dit qu'Hachem m'a envoyé et ensuite il dit, velo milibi, et c'est pas de ma propre initiative que j'ai fait les choses. C'est évident. Si c'est Hachem qui me l'a envoyé, alors évidemment, c'est pas de ton initiative que tu as fait les choses. Bon, ça, c'est une question à laquelle, par exemple, le Ora Chaim répond en disant que on aurait pu penser qu'Hachem a fait plaisir à Moshe Rabbeinu en nommant Aaron. Il a compris que Moshe Rabbeinu avait envie de ça et qu'Hachem lui a fait plaisir. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu répond. Hachem m'a envoyé le faire, et quant à moi, ça m'était complètement neutre. J'ai jamais souhaité ni que Aaron soit Kohen Gadol, ni que Elitsafan soit le chef de la tribu, etc. Il y a une autre explication qui n'est pas simplement la jalousie du pourquoi tout à coup Korach veut la place de Aaron. Alors, on raconte au nom du Rebbe de Kotsk qu'il aurait dit que Korach, il faisait partie de ceux qui étaient nocés à Aaron, des porteurs du Aaron. Bon, il y a peut-être à discuter là-dessus, mais en tout cas. Bon, donc il a porté le Aaron. Vous imaginez, porter le Aaron, c'était une expérience extraordinaire. D'abord parce que on était les porteurs du Aaron, mais en réalité, c'est le Aaron qui vous portait. Aaron noset nosav. Et le Kosko avait dit que quand, pour la première fois de sa vie, Korach a porté le Aaron, il a été tellement bouleversé par la Kdusha à laquelle il a accédé, par l'élévation, que dans sa tête, il a fait un Kal Vachomer, raisonnement a fortiori, il a dit, si le simple fait de porter le Aaron, c'est une expérience tellement extraordinaire. C'est l'accession à la Kdusha, une élévation absolument extraordinaire. Alors, qu'est-ce que ça doit être que d'être le Kohen qui fait la Avodat Hashem? Et qu'est-ce que ça doit être que d'être le Kohen Gadol à Yom Kippour? Et donc, ayant vécu une expérience comme celle-là, Korach n'a pas compris comment Hachem pouvait priver les Bnei Israël d'une telle expérience. en nommant des Kohanim qui sont tout le temps de la même famille, etc. Donc, tu prives toutes les autres tribus de l'accession à cela. Il comprend pas et... Cette idée-là, c'est un peu la même chose que les 250 de la tribu de Reuven. Eux, ils pensent qu'ils ont été, dépossédés. Parce que Reuven, c'est le Bechor. Donc, les gens de Reuven, ils ont pensé que si déjà ce ne sont pas tous les prorotes qui sont les qui vont faire la avoda. Et si on doit choisir une tribu, alors c'est la leur qu'il faut choisir. C'est la tribu de des prorotes. C'est la il est le premier né, donc c'est la tribu qu'il convient de nommer responsable. Et comme ils n'ont pas été nommés. Et ensuite, bon, ça vient aussi d'une proximité avec avec le groupe de Korach dans le campement. Donc, ils ont été embarqués dans cette affaire-là. Eux, ils voulaient vraiment vivre cette expérience. Et du coup, Moshe Rabbeinu comprend ça et il leur dit, ben alors apportez des ktorets, c'est-à-dire apportez ce que le Kohen Gadol apporte à Yom Kippour. Il leur dit, vous pensez que cette chose-là, elle peut être donnée à tout le monde? Sachez qu'il y a... pardon. Il y a une sakana, il y a un danger. Parce que seul celui qui va être choisi vivra. Tous les autres vont mourir. C'est la question de Rashi. Mais comment est-ce qu'ils ont accepté ça? Vous dites à des gens, vous pouvez faire cette expérience-là, mais il y en a un seul qui va vivre, les autres vont mourir. Comment se fait-il qu'ils y vont tous? Moshe Rabbeinu, en fait, quand il en parle, il dit d'eux qu'ils étaient Khatou ben Afshotam. Ils ont fauté contre eux-mêmes, en fait. Mais en quoi est-ce que c'est une réponse à la question? T'as de la sakana, il faut être fou, quoi, pour y aller. Alors, en vérité, étant donné que c'est de quoi ça se passe à quel niveau? Ça se passe à un niveau purement spirituel. C'est pas la recherche d'un pouvoir qui va leur donner matériellement des avantages. Ils sont tous en train de d'après cette explication de Kotzker, etc., ils sont tous en train de rechercher une expérience mystique, spirituelle, et ils pensent que c'est pas possible. Ils peuvent pas le croire qu'on peut mourir pour ça. Ils pensent, bon, ça veut dire, bon, ce serait pas la première fois qu'on va dire que quelqu'un va mourir, ça veut dire spirituellement, tu vas être mort par rapport à celui qui va être choisi. Et c'est pour ça que, après, même après que la terre se soit ouverte, qu'il y ait le feu, la magéfa, etc., les gens qui voient ça, ils se disent, mais Korach et ces gens-là, c'est pas des gens ordinaires qui sont révoltés contre Moshe Rabbeinu. C'est des tzadikim. Donc, si Hachem les a tués, comment se fait-il qu'Hachem tue les tzadikim? Donc, qu'est-ce qu'ils ont expliqué? Ils ont dit, ben, c'est la faute de Moshe et Aaron. Moshe Aaron, vous avez demandé ça à Hachem. Donc c'est pour ça qu'il leur dit, vous tuez le peuple d'Hachem. Il y a des morts à cause de vous parce que c'est vous qui l'avez demandé. C'est pas possible autrement. Ces gens-là étaient des tzadikim. Qu'est-ce qu'ils voulaient? C'est s'approcher d'Hachem. C'est tout ce qu'ils voulaient. Ils voulaient rien de matériel. Donc c'est vous. Au fond d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas comprendre que des gens qui veulent s'approcher d'Hachem soient tués. Et on voit bien que c'est quand même très ambigu. Parce que les encensoirs de ces gens-là, qu'est-ce qu'on en a fait? Tzipoui la misbère. On a martelé tout ça et on a mis ça, une couche de cuivre sur, sur le misbère pour protéger encore un peu plus le misbère. Donc ça veut dire que ces encensoirs qui ont été amenés par des gens qui contestent Moshe, Aaron, etc., ces encensoirs, ils ont une doucha telle que maintenant ils sont en permanence sur le misbère. Sauf que, en réalité, la bonne intention, ça ne suffit pas. On ne peut pas déduire du fait qu'il y avait une bonne intention que l'action est bonne. C'est Hachem qui dit si l'action est bonne ou pas. Après la Magepha, sans initiative de Kohar et compagnie, puisque bon, Hachem ordonne de prendre un bâton pour chacun, met son nom, et il annonce que le bâton qui fleurira, ça montrera qu'Hachem a choisi le propriétaire de ce bâton-là. Et c'est ce qui est fait. Alors, il revient à cette question qu'on avait déjà posée, comment imaginer que ce petit Nes-là, il est plus pertinent, il est plus convaincant que les Nissim qui ont déjà été faits. L'erreur, oui. Parce... Et comment on peut passer directement? La avoda, c'est les encensoirs. La avoda la plus élevée, celle que fait le Kohen Gadol à Yom Kippour, c'est les encensoirs. Et donc, on leur a fait faire l'expérience la plus élevée qui soit. Alors maintenant, il y a cette histoire du bâton. L'erreur de Korach, c'est que lui, il pense que la Kedusha ne dépend que de l'homme. Il pense que ça dépend des efforts des hommes. Si les gens travaillent sérieusement, la Kedusha, elle sera là. Or, dans Mesillat Yesharim, quand le Mesillat Yesharim parle de la Kedusha, il dit que la Kedusha, elle a lieu en deux temps. Premièrement, il faut une ishtadlout, effectivement, parce que pour avoir droit, pour arriver au niveau Kedusha, il faut avoir passé par toutes les étapes précédentes, mais que ensuite, ça reste une matana. Après tout ça, c'est un cadeau d'Hachem. Alors, lui, il pense, Korach, il est cohérent avec ce qu'il pense. Il dit, Kolaïda Kulam Kedoshim, on a tous fait l'expérience, donc on est tous au même niveau. Donc voilà, on a tous le même degré de Kedusha. Donc chacun peut être Kohen et servir Hachem dans le Mikdash, dans le Mishkan, en l'occurrence. Mais la réponse, c'est non. seul le bâton que j'aurai choisi, dit Hachem, va fleurir, et ce bâton-là, il indiquera qui j'ai choisi. Ça veut dire, il faut comprendre que les Kohanim ne sont pas meilleurs que les autres. C'est mon choix, dit Hachem. C'est moi qui ai choisi, c'est tout. En vérité, c'est très vraisemblable que nous pensions en fait comme Korach. Parce que nous, on pense a priori que ça marche au mérite. C'est difficile de justifier que de se tenir devant Hachem, que de servir Hachem. Comment on peut justifier qu'on peut se tenir, a priori, on va dire, la seule chose qu'on connaisse, nous, c'est le mérite, quoi. Est-ce qu'on va être capable? Est-ce qu'on s'est bien qualifié, en fait? Mais bon, la vérité, c'est que c'est une matana, c'est un cadeau. Donc le Kohen doit savoir que ce n'est pas parce qu'il est le meilleur, mais parce qu'il est né d'un papa qui était Kohen. Alors, en quoi est-ce que c'est très très important? Le côté positif, malgré cela, malgré la critique qu'on en a faite, c'est qu'il n'y a pas lieu de s'enorgueillir. Il y a un problème. Si c'était au mérite, alors on pourrait s'enorgueillir d'avoir été choisi. Là, on ne peut pas s'enorgueillir puisqu'on n'a pas été choisi au mérite. Oui. Plus fort. Parce que la halakha, elle est hasard, celui qui est zar, celui qui est étranger et qui voudrait faire la avoda, il est passible de mort. Même Moshe Rabbeinu qui est zar par rapport à ça, comme il n'est pas Kohen, si Moshe Rabbeinu allait faire la avoda n'importe quand, pendant les Milouim, c'était un peu différent, mais après, normalement, il est passible de mort. Tout Moshe Rabbeinu qu'il est. Personne. C'est ça, l'idée, c'est que, au fond, l'idée ici, ça veut dire qu'en réalité, personne ne peut se tenir devant Hachem. Quel que soit le travail, si on travaillait 1000 ans et de façon parfaite pendant ces 1000 ans, on n'aurait jamais le droit de se tenir devant Hachem. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de mérite humain qui permette de se tenir devant Hachem. La seule chose qu'il y a, c'est que voilà, Hachem a choisi, il a dit, voilà, il nous a choisi, hein, il nous a dit, vous allez prier 3 fois par jour, vous allez vous tenir devant moi. C'est complètement fou aussi. Se tenir devant Hachem, normalement, il faudrait être couché par terre, que rien ne dépasse, quoi. Mais Hachem a dit, je veux que tu te tiennes debout. C'est partie de la prière. En fait, au tout début de la Machloket, Moshe Rabbeinu nous l'avait déjà dit d'une certaine manière à Korach. Il a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Avec tout ce que tu as déjà reçu, Bikashtem Gams Keuna, tu veux aussi la Keuna? Tu ne comprends pas que tu as déjà été choisi. Pourquoi tu ne regardes pas le fait que toi, tu as été choisi, ta tribu, Lévi, et les autres, toutes les autres tribus n'ont pas été choisies. Voilà, finalement, ils ont compris. Mais il y a une petite question, c'est que pourquoi est-ce qu'ensuite, à la fin, chacun prend son bâton ? Qu'Aaron prenne son bâton parce que ça montre qu'il a été choisi, mais les autres, pourquoi ils me prennent un bâton qui n'a pas fleuri ? La seule chose qu'on peut dire, a priori, c'est que ils ont pris le bâton pour se souvenir qu'ils n'ont pas été choisis. Et transmettre à leurs descendants, arrêter de dire que c'est pas juste, Aaron, etc. On est allé jusqu'au bout, on n'a pas été choisi. Voilà. Donc, tout à fait, ils viennent vers Moshe Rabbeinu, ils lui disent, mais tout celui qui va s'approcher du Mishkan, il va mourir. Quand est-ce qu'on va cesser de mourir, là? Quand ils ont compris qu'ils n'entreraient pas dans le Mishkan, etc. Bon, ils disent donc à Moshe Rabbeinu, mais là, du coup, on va mourir. Pourquoi? Parce que la question qui se pose, c'est pourquoi ils disent une chose pareille? On vous a pas dit que vous allez mourir. Ne vous approchez pas indûment du Mishkan et vous ne mourrez pas. Pourquoi ils pensent qu'ils vont mourir? Peut-être parce que ils sont le Dordéa. Ils sont la génération qui est sortie d'Égypte, la génération qui a reçu la Torah. La génération de ceux qui y campent autour du Mishkan. Alors, du coup, le Mishkan fait office de pôle d'attraction. Ils sont attirés par le Mishkan. Pourquoi ils comprennent que on est attiré par le Mishkan et on n'a pas le droit d'y aller? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu mon truc là. Pardon? Voilà, c'est encore là. Voilà. Donc, ils comprennent qu'ils sont attirés, mais qu'il ne faut pas y aller. Alors, Moshe Rabbeinu, il les comprend, d'une certaine manière. Et Akadosh Baruch Hu donne la mitzvah de garder, de mettre un tour de garde autour du Mishkan pour les empêcher d'aller dans le Mishkan quand il ne faut pas y aller. Donc, Hachem fait un pas dans leur direction, si on peut parler comme ça. Voilà, donc cette lecture-là de... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? Cette lecture-là de l'histoire de Korach, c'est une lecture possible. Les Baalei Moussar, le Rav Volbe, il lit autrement. Il lit, lui, la chose de la manière suivante. Il dit, la Torah, elle nous montre, ici, comment on doit décortiquer une situation. Comment est-ce qu'on doit décortiquer une théorie? N'est-ce pas? Korach vient avec une théorie. Une théorie très magnifique. Kola Eda Kulam Kudoshim. On est tous égaux. effectivement, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une autorité? À la limite, l'autorité, on l'a eue, on était au Sinaï, Hachem nous a parlé. On n'a pas besoin d'une autorité. On est tous à la même hauteur que Moshe. Alors le Rav Volbe, il dit que quand quelqu'un vient avec une théorie comme ça, on est tous égaux, il faut commencer par regarder quel est le déclencheur. Un pitom, tout à coup, il s'est mis à tenir ce discours-là. Alors, là, on connaît, Chazal nous a enseigné, que Korach, il s'est mis à dire ce qu'il disait à la suite de la nomination d'Elitsaphan. Il s'est passé quelque chose qui, effectivement, peut apparaître justement comme un peu révoltant. Parce qu'on peut commencer à dire, voilà, ok, c'est Moshe, c'est une certaine tribu, une partie de la tribu de Lévi. Mais maintenant, Lévi, il a plusieurs fils. Maintenant, le prochain poste à pourvoir, normalement, il devrait échoir à quelqu'un qui est un descendant du deuxième fils de Lévi. Et en l'occurrence, c'est moi, dit Korach. Et Moshe, il n'a pas tenu compte de cette hiérarchie-là, et il a nommé un descendant du troisième fils. Quelqu'un qui, normalement, si on tenait les nominations, si on pensait que les nominations devaient se faire dans l'ordre de naissance, c'est Korach qui aurait dû être nommé. Donc il y a un problème, ça commence tout de suite avec un grand problème. Il y a quelque chose qui, si on le dit en ces termes-là, est une injustice. Et si on pense que c'est Moshe qui décide, alors Moshe a fait une injustice, il a court-circuité Korach, il a donné un pouvoir que Korach aurait dû avoir, un cousin de Korach. Donc, le déclencheur, c'est quelque chose qui est perçu comme étant une injustice. Alors, si on dit que pour expliquer que voilà, on ne tient pas compte de la hiérarchie. Alors, si on ne tient pas compte de la hiérarchie, il n'y a aucune hiérarchie alors. Alors, Kulam Kedoshim. Alors, on est tous égaux. Puisque finalement, on a fait tous la même expérience. À savoir, on a reçu la parole d'Hachem au Sinaï. Ok, donc il développe cette théorie, mais Ramoulin dit qu'en vérité, une théorie comme celle-là, ça ne tient pas la route, parce que ce n'est pas vrai qu'on n'a pas besoin d'un chef, quelque part. C'est un phénomène dans la nature, que ce soit dans le monde animal, etc., il y a des dominants. Il y a quelqu'un qui va dominer. Évidemment que Korach ne peut pas dire aux gens écoutez, là, c'est moi, moi je veux le pouvoir. Il ne peut pas leur dire une chose pareille. Alors il emballe tout ça dans la théorie, tout le monde était. En pensant, comme je vous ai déjà dit, qu'un jour ou l'autre, on aura besoin d'argent, et comme lui, Korach, c'est quelqu'un qui est devenu le plus riche, parce qu'il a su faire probablement quand il y a eu la possibilité de prendre le butin au passage de la mer, c'est lui qui en a ramassé le plus. Donc on a vraiment affaire à quelqu'un qui est capable, il a été capable de se débrouiller, il a quand même réussi à dominer là. Et donc il pense qu'effectivement on risque rien à dire qu'on est tous égaux. Alors du coup les Chachamim nous disent, ah, on connaît déjà cette histoire. Parce que quand Nimrod a assemblé le monde entier pour faire construire la tour pour aller lutter contre Hachem, alors le Midrash dit que Mitzrayim a dit à Put, l'Égypte, qui était la civilisation probablement dominante à ce moment-là, et Put, qui était, bien c'est justement ce royaume avec les pharaons noirs dont on parle tout le temps là, ou bien c'est peut-être le Soudan ou je sais pas quelque chose. Mitzrayim a dit à Put, nous on est plus intelligents que un jour il y aura des problèmes, et comme on est plus intelligents, c'est nous qui aurons le pouvoir. C'est-à-dire, continuons de dire on est tous égaux, ça n'aura qu'un temps, finalement le pouvoir on l'aura. Donc ça existe déjà, cette idée-là, dire qu'on est tous égaux pour se réserver le pouvoir, que ce soit la nomenclatura en Union soviétique, etc., c'est toujours, voilà, on est égaux, et après, bon, il y a quand même quelqu'un qui me tire son épingle du jeu. Et donc, le Rav Volmé, il dit que il faut, chaque fois que quelque chose de ce genre-là se présente, il faut analyser, regarder quel est le déclencheur, qu'est-ce qu'elle dit cette théorie, et comment, qui est-ce qui parle, qu'est-ce qu'il a comme avantage, etc., pour s'en sortir, pour gagner et pour dominer. Et donc voilà ce que on peut dire, bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais sur cette histoire de Korach, c'est une nouveauté parce que tout à coup on s'est mis à contester Moshe Rabbeinu. Alors on dit que ça n'a été possible qu'à partir du moment où Moshe Rabbeinu n'a pas sauvé les Bnei Israël de la sanction qui les a frappés avec les Meraglim. Jusqu'alors, chaque fois que le clan Israël avait un problème, Moshe Rabbeinu intervenait et il sauvait le clan. Il n'est pas intervenu avec les Meraglim, entre autres parce qu'il ne pouvait pas intervenir vu que c'était un sursis. En réalité, la raison pour laquelle les Meraglim sont morts, c'est parce que Hachem avait décrété que le clan Israël devait être détruit. Il avait même proposé à Moshe Rabbeinu de commencer un nouveau clan avec lui. Et que par l'intervention de Moshe Rabbeinu, les Bnei Israël ont reçu un sursis. Au lieu d'être puni tout de suite, il y a un sursis. Seulement, le sursis, il est tombé avec la faute des Meraglim. Donc, Moshe Rabbeinu ne pouvait plus intervenir. Et du coup, quelque part, alors, il n'est plus si bienveillant, ou bien il n'a pas le pouvoir, etc. Du coup, on s'est mis à contester ses décisions. Jusque-là, personne n'avait contesté les décisions de cette manière-là. On n'a pas dit que Moshe Rabbeinu, il avait désigné son frère, etc. Parce tout ça, c'est des théories qui viennent de Korach. Alors Korach, quand il a fait sa démonstration, vous vous souvenez, par exemple, il voulait montrer l'absurdité de la situation. Vous savez que quand la Torah elle a donné une mitzvah de tzitzit, c'est-à-dire de mettre des franges, comme on dit, des fils, des vêtements quand les vêtements ont quatre coins, et un des fils, qui doit être un fil de laine et qui doit être teint en trélette, en bleu. Et donc voilà, on dit voilà sur les vêtements, Il y a des tzitzit, et dans chacun des tzitzit, il y a, dans l'ensemble des fils, il y a des fils blancs et un fil bleu. Alors, Korach a dit à Moshe Rabbeinu, et maintenant, si on a un vêtement qui est entièrement bleu, qu'il est fait en trélette complètement, est-ce qu'on a quand même besoin de mettre un fil de trélette? Et Moshe Rabbeinu a dit oui. Alors il s'est répandu en disant c'est complètement débile. Si un seul fil peut, alors tout un vêtement il peut aussi. Même chose, une maison qui est pleine de sfarim, est-ce qu'elle a besoin d'une mezouza, un petit sefer à la porte? Ça c'est ridicule. C'est toujours l'idée que quand on a un tout, on n'a pas besoin d'un fil, on n'a pas besoin d'un petit livre, un petit sefer comme la mezouza, etc. C'est toujours la même idée. Kol ha'eda kulam kedoshim, on n'a pas besoin de qui que ce soit pour diriger. Il n'y a pas lieu. C'est toujours cette idée qu'on est tous à la même hauteur. La raison pour laquelle on est tous à la même hauteur, disons de ce point de vue-là, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu que les Bnei Israël puissent accepter l'autorité de Moshe Rabbeinu, accepter qu'Hachem parle à Moshe Rabbeinu. Et pour ce faire, il a fait faire à tout le clan d'Israël l'expérience d'entendre la parole d'Hachem comme Moshe Rabbeinu l'entend. Donc, on les a mis à cette hauteur-là pour justement permettre à Moshe Rabbeinu de faire son job. Et Korach vient et dit, c'est le contraire. Puisqu'on a vécu ça, on n'a plus besoin de Moshe Rabbeinu. Donc, on voit une chose intéressante, c'est-à-dire que ce qui a été fait pour permettre aux Bnei Israël de bien accepter Moshe Rabbeinu, quand on veut, on prend et on retourne complètement la chose. Et ça permet de lutter contre Moshe Rabbeinu et de refuser, d'empêcher Moshe Rabbeinu de faire son travail. Ça, c'est la capacité qu'on a de réinterpréter les choses de la mauvaise manière, quelque part. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est interprétable de manière. C'est-à-dire, il n'a pas fait quelque chose qui ne pouvait pas s'interpréter comme Korach l'a fait. Bien sûr qu'Hachem aurait pu trouver une solution qui laisse aucune ambiguïté. Et ça fait partie de la liberté qu'Hachem a donnée aux êtres humains, enfin aux hommes, aux juifs, en fait, en l'occurrence. Il y a une situation et c'est à toi de la mettre en conformité avec ce qu'Hachem te dit, avec ce que tu... Alors, si vous voulez, il reste une petite question, il reste beaucoup de questions, mais une question, c'est pourquoi les Chachamim disent que ce que Korach a dit, c'est un shtout, c'est une bêtise. Est-ce que c'est vraiment une bêtise? Est-ce que de dire que... Bon, alors, c'est vrai que c'est peut-être une bêtise de dire que c'est Moshe qui l'a inventé. Mais dans la mesure où on s'imagine qu'il n'arrive pas à comprendre comment il peut y avoir cette drôle de situation où un Cohen, parce qu'il est né Cohen, il va servir au Mishkan puis au Beit HaMikdash, et que le Gadol Hador, lui, il ne peut pas. Il ne va pas pouvoir. Il est 100 fois plus grand que le Cohen en question. Lui, s'il y va, il est mort. C'est sûr que c'est difficile à comprendre. Pardon ?
On ne peut pas se positionner dans une position dominante si on n'est pas constamment interrogé par l'humilité.
Oui, c'est... C'est important, si on peut dire, il est important que ce texte-là se trouve dans la Torah pour qu'on ait un exemple très clair de la, justement, de la possibilité qu'on a de vouloir mal comprendre, de, je sais pas, peut-être on n'est même pas obligé de dire que c'est vouloir mal comprendre, c'est-à-dire, voilà, et, n'ont pas compris ce que c'est que la décision d'Hachem, quoi. Quelque part, ils font comme si Hachem était astreint à prendre des décisions rationnelles. Mais c'est ça la, le problème de tout le monde, c'est comment on fait, justement, avec ces décisions qui ne sont pas rationnelles. C'est notre émouna. Notre émouna, c'est que ces décisions, bon, c'est les décisions d'Hachem, et Hachem est souverain, il décide. Et c'est à nous d'essayer d'expliquer, d'essayer de comprendre. Et ce n'est pas lui à s'adapter à l'esprit humain. Voilà, on va s'arrêter là. Bon.